Nous avons la grande joie d'entendre l'archiduc Rudolf d'Autriche, qui a vécu en exil dans différents pays d'Europe. Il est père de 8 enfants, grand-père de 4 petits-enfants. Il travaille dans la finance, mais il travaille aussi au procès de béatification de sa grand-mère, l'impératrice Zita. Et encore plus près de chez nous, il travaille aussi puisqu'il est membre du conseil de fondation pour la canonisation de la bienheureuse Marguerite Bailly. Monseigneur, nous vous écoutons avec grande joie.
Merci beaucoup. Voilà, bonjour. Je voudrais en fait vous présenter plutôt que de témoigner, il y aura quelques témoignages, mais un témoignage, une présentation sur mes grands-parents qui sont des témoins et je pense des exemples pour notre temps. Les vies de l'empereur et de l'impératrice sont absolument indissociables de leur foi. Peu de temps avant sa mort, Charles disait à son épouse « Toujours et en toute chose, je m'applique à reconnaître aussi clairement que possible la volonté de Dieu et ensuite à la suivre aussi complètement que possible. » Et c'est justement cette soumission à la volonté de Dieu qui fait de lui un chef d'État exceptionnel, malgré l'un des règnes les plus courts de l'histoire. C'était une succession d'événements incroyables qu'il doit le fait d'assumer cette lourde charge. Vu que, comme on le sait, et je passe rapidement dessus, il y a eu plusieurs assassinats, entre autres de l'archiduc héritier à Mayerling, et puis il y a eu Sarajevo, etc. On pourrait aussi penser que la Providence avait un plan pour lui, si l'on considère la prophétie faite par le pape Pie X à ma grand-mère en 1911, lorsqu'elle fit une visite officielle au Vatican. Zita s'était en effet rendue à Rome avec sa famille pour mettre son mariage à venir sous la bénédiction du Saint-Père. Et je lui ai demandé, il m'a raconté très clairement l'histoire suivante. Le pape Pie X lui a accordé une seconde audience, une audience privée, avec sa mère, la duchesse de Parme, et il lui a dit, en 1911, « Vous allez épouser l'héritier du trône et je vous souhaite alors toutes les bénédictions. » Timidement, par deux fois, ma grand-mère avait tenté de répliquer que son fiancé n'était pas l'héritier puisque l'archiduc François Ferdinand devait succéder à l'empereur François Joseph. Et puis elle m'a dit, à ce moment-là, le pape a saisi mes deux mains et a insisté et a dit « Et je m'en réjouis infiniment parce que Charles est la récompense que Dieu a réservée à votre famille et à l'Autriche pour tout ce qu'ils ont fait pour l'Église. » Et puis il a rajouté en 1911, « Lorsque vous serez impératrice, il faudra tout faire avec Charles pour terminer la guerre. » En sortant, ma grand-mère un peu bouleversée s'est alors adressée à sa mère et lui a dit, « Dieu merci, le pape n'est pas infaillible en matière de politique. » La duchesse de Parme est restée muette, pensait-elle que le pape avait mesuré l'exact sens de ses propos. Alors, prophétie, probablement, puisqu'entre les deux guerres, ma grand-mère a versé cette anecdote au dossier de la béatification de Pie X. Charles, dès l'âge de 4 ans, se rendit compte des souffrances des personnes moins fortunées que lui et essaya de les aider. Il demanda même aux domestiques de sa maison de pouvoir travailler pour gagner de l'argent pour les pauvres. Il vendit aussi des fruits et des légumes du verger de chez eux et les vendit au marché et donna le prix de ceux-ci aux pauvres. Il organisa des loteries à leur bénéfice et donna même beaucoup de ses habits à l'horreur de sa mère. Son père, maintenant ma grand-mère, le père de ma grand-mère, fut l'ultime duc régnant de Parme en Italie. Ayant eu 12 enfants de son premier mariage avec la princesse Maria Pia des deux Siciles, au décès de celle-ci, il se remaria avec la princesse Maria Antonia de Braganza, qui était la fille de Don Miguel, roi du Portugal. C'était une femme forte, avec beaucoup de personnalité, qui donna également 12 enfants au duc de Parme, dont la petite Zita, qui naquit le 9 mai 1892 à Pianore en Toscane, près de Lucques. Elle fut baptisée deux jours plus tard et reçut le prénom de la patronne des domestiques et des serviteurs, dont l'exemple la marqua. Le duc et la duchesse étaient profondément croyants et transmettaient leur piété à leur entourage. D'ailleurs, trois de leurs filles entreront dans les ordres et l'attention du couple pour les plus faibles sera constante. En fait, 6 des 24 enfants étaient gravement handicapés et vivront en permanence au milieu de la famille. Robert de Parme était cultivé, intelligent, grand lecteur et éduquait partiellement lui-même ses enfants, ce qui n'était pas du tout courant à cette époque. À la maison, ils parleront 6 langues. Le français le lundi, l'espagnol le mardi, l'italien le mercredi, l'allemand le jeudi, le portugais le vendredi et l'anglais le samedi, et le dimanche était congé. Lire, chanter, jouer d'un instrument de musique, jouer des pièces de théâtre, pratiquer un sport, discuter de politique, d'art ou de culture étaient des occupations quotidiennes. Ceci n'excluait évidemment pas les œuvres charitables. Ma grand-mère avait reçu une machine à coudre et pendant ses vacances à Pianoré, elle cousait avec ses sœurs des habits pour les pauvres, qu'elle visitait ensuite avec sa mère et surtout avec sa sœur Francesca qui deviendra religieuse bénédictine à Solem. Elle suivit ainsi l'exemple de sa sainte patronne qui disait « Les mains au travail et le cœur à Dieu ». Bref, ce fut pour ma grand-mère, le 17e enfant du duc et de la duchesse de Parme, une jeunesse heureuse. Au sein d'une famille, on rencontrait beaucoup de cousins, partageant la même éducation et surtout la même foi. De son côté, à 15 ans, Charles connaissait déjà beaucoup de poésie et d'extraits d'auteurs classiques de son époque en 6 langues, dont le latin. Par la suite, Charles a appris à parler quasiment toutes les langues de l'empire sur lequel il devait un jour régner. On a compté qu'il parlait 14 langues au total au moment où il régnait. Il se distinguait comme étant un très bon étudiant avec une mémoire exceptionnelle. D'ailleurs, le professeur Braff, qui était l'un de ses professeurs à Prague, a témoigné qu'il était le meilleur étudiant qu'il ait jamais eu et qu'on lui avait donné 2 fois plus de travail qu'aux autres, tant sa soif d'apprendre était grande. En 1909, l'impératrice Zita, qui est pas seulement ma grand-mère, mais pour moi c'est une grâce, c'est aussi ma marraine, accompagna en Bohême une tante, qui était l'archiduchesse Maria Annunziata, qui devait y suivre une cure. Un jeune archiduc, officier à Brandeis, près de Prague, rendait de temps en temps visite à sa tante Maria Annunziata. Ce jeune lieutenant, deuxième en place dans l'ordre de la succession au trône d'Autriche, était, vous l'avez deviné, Charles. De rencontre en rencontre, s'ébaucha entre ce jeune homme de 22 ans et cette jeune fille de 17 ans, plus qu'une simple affection. De plus, l'empereur François-Joseph, en 1910, voulant assurer la continuité de la dynastie, puisque les enfants de l'archiduc François-Ferdinand ne pouvaient pas régner, ayant fait un mariage morganatique, il convoqua son petit-neveu et lui dit, et il faut pas mal comprendre ça, il faut le remettre dans le cadre de l'époque. L'empereur dit à son petit-neveu, Charles, il est temps pour toi de te chercher une épouse, mais sache qu'il doit s'agir d'une princesse de sang royal ou impérial. Toute autre solution est exclue. Mais Majesté avait-il tenté de répondre, je te le répète, c'est un ordre, tu as 6 mois devant toi. Début 1911, Charles revit Zita à Vienne lorsque celle-ci fit son entrée dans le monde, au bal de la cour. Ils eurent l'occasion de danser ensemble. Quelques mois plus tard, l'archiduchesse Marie-Thérèse organisa une nouvelle rencontre en Styrie où Charles, lors d'une chasse, put se déclarer à Zita. Les fiançailles furent célébrées à Pianoré le 13 juin 1911 dans un cercle familial restreint. Fin juin, l'archiduc Charles représente l'empereur à Londres pour le couronnement du roi George V et il écrit régulièrement à sa fiancée en finissant ses lettres par « Je t'embrasse et t'étreins dans un amour fidèle » ou « Éternellement à toi dans un amour fidèle ». De Londres, toujours, lors de ses fiançailles, il écrit également au comte Wallis, son ancien précepteur, « Je suis le plus heureux de tous les fiancés, car j'ai comme fiancée la meilleure des jeunes filles au monde. » Les fiancés firent une retraite à Mariazell. Mariazell est le grand centre marial en Autriche. Et la veille de son mariage, Charles donna à sa future épouse la ligne de conduite de leur vie, en lui disant « Maintenant, il faut que nous nous épaulions mutuellement pour arriver au ciel. » Charles épousa le 21 octobre 1911 la princesse Zita de Bourbon-Parme. Beaucoup d'invités étaient présents, dont l'empereur François-Joseph. La sœur de ma grand-mère, qui était la mère Maria Antonia, qui était à Solesmes également, témoigne dans la Positio. La Positio, c'est le résumé du procès de béatification. Et il dit « Ce mariage était une harmonie complète des options fondamentales ainsi qu'en pensée. Il régnait une confiance totale entre eux, sans secret. Leur optimisme mutuel était augmenté par une confiance héroïque en Dieu et en sa volonté. Il n'y eut aucune ombre entre eux. » Après leur voyage de noces, ils s'installeront à Hetzendorf, à côté de Vienne, où Charles reprendra ses activités. Maintenant, ils vont tous les deux exercer des activités de représentation au nom du souverain. Et le couple conserve malgré cela une simplicité naturelle. Mon grand-père a continué, il était officier de carrière, donc il a continué sa carrière à l'armée, passant pour tous les gardes, ayant été caserné dans différents pays, incluant l'Autriche, la Bohême et la Pologne. Et il fut nommé au début de la Première Guerre mondiale dans le haut commandement de l'armée. Début 1916, il fut promis au grade de Feldmarschall et ensuite de vice-amiral et commandant du corps d'armée. L'archiduc Charles ne fut pas impliqué politiquement dans le début de la guerre. D'ailleurs, l'empereur François-Joseph lui avait dit « Je vais devoir faire des choses pour lesquelles tu ne porteras aucune responsabilité. » Comme militaire, il était considéré comme un camarade loyal, un chef intelligent et un homme pieux. C'était un bon officier, une figure de père pour ses hommes. Lors de chaque inspection, il montait au front et faisait rapport à l'empereur de la situation exacte, bonne ou mauvaise. Concernant cette Première Guerre mondiale, tout le monde s'accorde à dire aujourd'hui que les vraies causes du déclenchement de la Première Guerre mondiale sont les nationalismes existants au début du XXe siècle, ainsi que le jeu des alliances. La cause ultime a été l'assassinat de l'archiduc héritier François Ferdinand et de son épouse à Sarajevo. Au milieu de la guerre, l'empereur François-Joseph décède le 21 novembre 1916. Charles, devenu empereur, hérite de la guerre avec la couronne. L'historien anglais Gordon Brooke Shepherd l'a résumé dans une formule expressive. Charles avait besoin de réformes pour imposer la paix et il avait besoin de paix pour imposer des réformes. Avant d'ajouter de façon lapidaire, le problème se révéla insoluble. Zita devint à 24 ans impératrice et fut couronnée reine apostolique de Hongrie le 30 décembre 1916. Selon le témoignage de ma grand-mère, toujours dans la Positio, ce couronnement a été l'un des jours les plus importants de la vie de son mari, car il était, par l'onction, vous savez que l'onction royale est très proche de l'onction que reçoit un évêque, ça donne des forces à cette personne pour remplir ses responsabilités. Donc, par l'onction, investi d'une mission par l'Église au nom de Dieu. Et durant cette cérémonie, et par son serment, tout le peuple lui était confié. Il devait ainsi vivre pour lui, se sacrifier, prier et souffrir pour lui. Durant la cérémonie, selon la tradition, après celui du roi, vient le sacre de la reine. Et le roi se tourne vers le primat en disant « Éminence ». Nous vous prions de bénir l'épouse unie à nous devant Dieu et de la toucher avec la couronne royale pour la louange et la glorification de notre Seigneur Jésus-Christ. Agenouillée, Zita bénéficie des mêmes onctions que Charles. L'évêque de Veszprém place sa couronne, place sur sa tête la couronne fabriquée en 1867 pour le couronnement de la reine Élisabeth, que l'on connaît souvent mieux sous le nom de Sissi. Pendant que le primat dépose cette couronne de Saint-Étienne sur l'épaule droite, allégorie de l'union du roi et de la reine, en disant « Reçois la couronne de la souveraineté, afin que tu saches que tu es l'épouse du roi et que tu dois toujours prendre soin du peuple de Dieu. Plus haut tu es placé, plus tu dois être humble et rester en Jésus-Christ. » Chrétien fervent, enfant soumis de l'Église, les deux souverains étaient pénétrés de la dimension mystique du sacre. Désormais, ils portaient devant Dieu la responsabilité de la Hongrie. Charles et Zita étaient un vrai couple et s'étaient juré fidélité et soutien pour le meilleur et pour le pire, devant Dieu et les hommes. Le pire était à venir. Devenu empereur, Charles était très concerné par la vie même de ses soldats ainsi que par leurs conditions de vie. Il limogea immédiatement le feldmarschall Konrad von Hötzendorf qui envoyait ses hommes à la boucherie. Il créa des maisons pour les soldats pour qu'ils puissent récupérer et acheter à bas prix des objets pour leurs besoins. Il supprima certaines maisons douteuses qui suivent les armées. Il supprima le duel. Il supprima les punitions corporelles. Il créa un fonds pour les familles des soldats blessés et tués. Il interdit l'emploi du gaz dans les tranchées. Il interdit le bombardement des populations civiles et des villes et sauva ainsi, entre autres, Venise de la destruction. Mais un militaire doit aussi être un stratège. Et là, tous les historiens sont d'accord. Son sens de la stratégie a été un élément essentiel dans les victoires autrichiennes en Roumanie, ce qui avait arrêté l'offensive des troupes russes, ainsi que dans l'offensive austro-hongroise sur le front italien à Folgaria. Il était un militaire de carrière dans l'âme, mais il détestait la guerre. Et en 1914, voyant la jubilation de la population au début de la guerre, il dit à ma grand-mère « Je suis officier ». Mais je ne comprends pas comment des gens qui voient partir leurs proches à la guerre puissent ainsi s'enthousiasmer. D'ailleurs, son premier acte politique fut un manifeste « An meinen Völkern », à mes peuples, où il s'engageait de tout faire pour obtenir une paix honorable. Et il rajoutait dans ce texte « Aucun homme ne peut justifier la guerre devant Dieu. Je vais l'arrêter et le plus vite possible ». Comme les horreurs de la guerre continuaient, Charles coupa tout luxe dans ses palais. Les chevaux de la Hofburg ainsi que les calèches furent mis au service des pauvres pour apporter de la nourriture et du charbon. Lui et sa famille mangeaient du pain noir. Les rations diminuaient pour eux comme pour les autres personnes dans l'Empire. Souvent, l'empereur ne mangeait que 2 fois par jour de petites rations, une fois tôt le matin et parfois 18 heures plus tard le soir. Les seules vacances qu'il prit fut de voyager souvent avec son épouse, voir ses sujets, les consoler, les encourager et chaque fois que possible faire des dons. Entre 1916 et 18, en 2 ans de règne, Charles effectue 56 déplacements dans l'Empire, dont 30 au front. Son chambellan, le prince de Lobkowitz, a calculé que ça représentait 110 000 km en train et 20 000 en voiture ou à cheval, en imaginant le confort des voyages à cette époque. Zita suivit son mari 15 fois, donc 4 fois sur le front. Pour toute l'action de ma grand-mère, le cardinal Pfiffel, qui était archevêque de Vienne, qualifia Zita d'ange gardien de tous ceux qui souffrent. Mon grand-père fit des efforts de paix qui sont connus et qui se sont traduits par plusieurs actions. D'abord en faisant pression sur les Allemands et sur l'empereur Guillaume II pour faire une paix en position de force. Également en soutenant le pape Benoît XV qui avait fait un appel à tous les dirigeants. D'ailleurs, il a été le seul à le soutenir. Et ensuite en essayant de contacter de façon diverse les alliés, les dirigeants alliés, par des négociations secrètes pour essayer de faire des paix séparées pour arrêter la guerre. Ainsi, il a demandé à ses 2 beaux-frères, les princes Sixte et Xavier de Bourbon-Parme, d'être son émissaire en 1917. L'empereur fut malheureusement trahi par un de ses ministres et certaines personnalités publiques comme Clémenceau, qui firent tout pour faire échouer les négociations. Et à partir de ce moment-là, tout partit à volo. Les groupes séparatistes déclarèrent que leur nation devait être libre et non plus faire partie de la double monarchie. Charles publia un manifeste en octobre 1918 déclarant que l'Autriche-Hongrie deviendrait un empire fédéral après la guerre. C'était d'ailleurs un plan qu'il avait préparé longtemps avant son accession au trône. Mais maintenant, c'était trop tard. Le 3 novembre 1918, l'Autriche-Hongrie signa un armistice avec les Alliés. Et 8 jours plus tard, l'Allemagne capitule. La guerre était finie. Le 11 novembre, un groupe de membres du gouvernement arriva à Schönbrunn, à Vienne, pour demander l'abdication de l'empereur. Il refusa, disant qu'il ne pouvait renoncer à une couronne qui lui avait été confiée par Dieu et transmise par ses ancêtres. Mais il signa un petit papier sur un haut crayon, disant qu'il renonçait temporairement à l'exercice du pouvoir pour empêcher les alliés de se venger encore plus sur ses peuples. Deux jours plus tard, il fit la même déclaration pour la Hongrie. Dans les deux cas, il n'abdiqua pas. Il restait donc empereur ainsi que roi couronné et oint. Ce que l'on sait beaucoup moins, c'est outre sa tâche comme chef de l'armée, Charles a déployé durant 2 ans une activité impressionnante. La plus impressionnante et la plus importante durant son court règne a été de prendre des mesures pour améliorer la situation sociale, activité où il s'est particulièrement fait guider par l'encyclique Rerum Novarum du pape Léon XIII. Il créa, et c'était une première mondiale, aujourd'hui c'est courant, les ministères des Affaires sociales et de la Santé. Il constitua un plan de réforme agraire pour la Bohême et la Hongrie. Il prit des mesures en faveur de la classe ouvrière qui amena des améliorations considérables, comme par exemple l'introduction du contrôle des prix pour faciliter la vie du citoyen pauvre. Les hauts fonctionnaires devaient désormais travailler bénévolement pour l'État. À ces réformes sociales appartiennent également la création d'une assurance sociale, le prolongement du congé maternité de 4 à 6 semaines pour les mères. Il interdit l'augmentation des loyers et créa une autorité compétente de contrôle. Il essaya d'éviter que l'on travaille la nuit, entre autres dans les boulangeries. Il organisa des cuisines de guerre. Il combattit la corruption tant qu'il pouvait. Et par la création d'une aide à la répartition de denrées alimentaires, il réussit jusqu'à la fin de la monarchie à aider environ 5 millions de pauvres, pour lesquels il fit dépenser environ 650 millions de couronnes de l'époque. Il évitait aussi, une chose qui ne se faisait pas toujours non plus, des préférences injustifiées, en particulier le népotisme. Et il avait un seul frère qui s'appelait Max, qui préférait rester à Vienne plutôt que d'aller sur le front et faire son devoir comme tous les autres officiers. Il lui ordonna de partir sur le front comme tout le monde. D'ailleurs, c'est piquant de savoir que une des rares personnes qui a témoigné contre lui au procès de béatification était son frère. Il punissait sans indulgence tous ceux qui, par la mise à profit de leur position dans l'État, en tiraient avantage. Le général Aufenberg, par exemple, ministre de l'Empire, fut levé de ses fonctions parce qu'il avait touché de la part des usines Skoda une commission pour la livraison de nouveaux obusiers. Il élabora également de nouvelles lois en faveur de la protection de la jeunesse, ainsi que des lois contre la littérature que je qualifierais de bas étage. Il fit ainsi démanteler un cartel de presse conduit par un franc-maçon, le docteur Sieghart. Il proposa à l'épiscopat, malheureusement en vain, la création d'églises de fortune dans les quartiers ouvriers surpeuplés de Vienne, ainsi que l'organisation de missions dans l'ensemble de la monarchie. Dans sa lutte infatigable pour la paix et l'équité, il ordonna le 2 juillet 1917 une amnistie générale pour réparer les multiples injustices occasionnées par les tribunaux militaires. Il était conscient que beaucoup de ces mesures affaiblissaient sa position personnelle, mais seule la justice et l'équité lui importaient. Il lui suffisait de savoir qu'il avait fait son devoir envers Dieu et son prochain, et que c'était le plus beau privilège de la couronne. Au début de 1919, sous la pression du gouvernement autrichien et à cause de sa très grande popularité, Charles et sa famille furent forcés à partir pour la Suisse. Entre 1919 et 21, il restait en contact avec des envoyés de ses États ainsi que certains chefs des États alliés. L'empereur ne disposait d'aucune ressource. Fait rare dans l'histoire des dynasties, les Habsbourg, après avoir disposé d'une fortune considérable, avaient tout perdu. Avec les leurs, les souverains ont alors entamé l'éducation rigoureuse où tout s'enracine dans la foi. Les princes, enseignent-ils, se doivent aux autres. Ils ne sont pas nés pour eux-mêmes, mais pour servir. Malgré toutes ces activités, Zita est aussi mère. Elle aura 8 enfants, de 1912, année de la naissance de l'archiduc Otto, suivi d'Adélaïde, de Robert, de Charles-Louis, mon père, en mars 1918, puis en exil de Rodolphe, Charlotte et enfin Elisabeth, née quelques mois après la mort de l'empereur en 1922. Deux fois, En 1921, Charles retourna en Hongrie pour essayer de regagner son trône. Pourquoi ? Parce que c'était un roi apostolique et comme apôtre, il se devait d'être proche de son peuple. La population était très favorable car il était très, très aimé. Et en plus, le territoire hongrois avait été amputé et charcuté par les mauvais traités de Saint-Germain-en-Laye et de Versailles. Il avait aussi le soutien de Benoît XV et le soutien de la France. Aristide Briand, président du Conseil depuis peu, qui craignait la renaissance de la puissance prusse et voulait un contrepoids à l'Est. Une première fois, assuré de la loyauté de l'amiral Horthy, qui était régent, Charles lui parla pendant 2h30, seul à seul. Mais Horthy le trahit pour regagner le pouvoir, ou plutôt pour garder le pouvoir. Une seconde fois, ayant atterri dans la propriété d'un sujet loyal, les garnisons se rallièrent à lui et une armée fut levée. Et ils avancèrent vers Budapest. Leur train et leurs troupes rencontrèrent les troupes de l'amiral Horthy. Je pense que vous voyez l'image du train où il s'arrête pour la messe, il fait arrêter toute l'armée pour la messe tous les jours. Les troupes de l'armée du régent Horthy étaient des étudiants et des cadets auxquels Horthy avait menti en disant que c'était des Tchèques qui voulaient envahir la Hongrie. Les troupes du roi étaient en surnombre, mais il avait interdit à Léar, le commandant en chef, d'ouvrir le feu pour éviter de faire couler du sang de ses propres sujets. L'amiral Horthy demanda alors une trêve à nouveau, prétextant de vouloir éviter une guerre civile. Et il donna au roi sa parole d'honneur qu'il retirerait ses troupes et négocierait le retour de Charles sur le trône. La trêve fut acceptée, mais Horthy en profita pour capturer les troupes loyalistes qui n'avaient pas le droit de tirer et finit par confisquer leur équipement, leurs armes et capturer le roi et la reine qu'il livra ensuite aux alliés. Ce sont les Britanniques qui se chargèrent de prendre l'empereur et l'impératrice sur un de leurs bateaux, sur le Danube, qui les amenèrent au port de Sulina, en Roumanie. Là, ils furent transférés sur un autre bateau à vapeur, le Cardiff, qui les amena en mer vers une destination inconnue. Le voyage en exil fut très pénible pour le couple impérial. Ils étaient séparés de leurs enfants, ne sachant pas quelle serait leur situation future. On leur supprima le réconfort de la messe et des sacrements qui étaient pour eux une joie quotidienne. On leur confisqua leurs maigres moyens. Après 3 semaines de captivité sur le bateau, ils furent finalement informés que leur destination finale était Madère. À Madère, quand finalement les enfants furent réunis à leurs parents en février 1922, Charles et Zita, faute de moyens, durent quitter le petit hôtel de Funchal pour une maison sur la montagne, non chauffée et prêtée par un banquier de Lille, et elle était connue sous le nom de Monte. Elle se trouvait vraiment sur les hauteurs, je l'ai visitée, et en hiver, il faisait très humide et très froid là. Comme je l'ai dit, ils n'avaient pas d'argent pour les besoins de ma grand-mère aussi, qui attendait son 8e enfant pour le mois de mai. Toutefois, certains nobles hongrois leur avaient fait parvenir une petite somme d'argent, ce qui leur permettait de survivre et de s'installer à la Quinta do Monte, le royaume de la pluie et de la brume. Et c'est une lettre qu'on a retrouvée qui se trouve dans le procès de béatification d'une domestique portugaise qui explique mieux que tout ce que fut leur vie là-haut. Et je vais vous la lire parce qu'elle est poignante. Elle écrit à une de ses parentes: nous nous sommes transportés de Funchal sur la montagne où il n'y avait presque pas de meubles. Il a fallu emprunter presque tout à l'hôtel Victoria. Notre linge, les vaisselles, les verreries n'étaient pas encore arrivés. Nous avons été obligés de nous faire prêter cela aussi. En dehors de cela, toujours du brouillard, de la pluie, de l'humidité. Sur ces montagnes, on a froid. Ici, nous n'avons pas de lumière électrique, rien qu'un WC. De l'eau seulement au premier étage et en bas à la cuisine. Pour se chauffer, on n'a que du bois vert qui fume constamment. La maison est très humide. Partout, cela sent le moisi et chacun peut voir sa propre respiration. Les uniques moyens de transport sont les autos ou les bœufs qu'on ne peut pas se payer. Et en dehors de cela, il y a encore un funiculaire, mais il ne marche pas tous les jours. On ne peut pas descendre à pied parce qu'on mettrait un jour entier pour remonter. Elle rajoute, « Le pauvre empereur ne peut pas avoir de viande le soir, seulement des légumes et un entremets. C'est ce qui nous fait le plus de peine. Pour nous, dit-elle ou écrit-elle, cela ne fait rien, cela ne me manque pas. Mais eux, ils n'ont même pas assez à manger. Et le pire de tout, c'est que Sa Majesté doit accoucher au mois de mai et que l'on ne veut pas prendre ni garde ni médecin. Il n'y aura ici qu'une bonne d'enfant, mais elle n'a pas d'expérience. » Je l'ai bien connue, c'était la comtesse Kersenbrook qui était rentrée dans la famille pour la naissance de mon père quelques années auparavant et qui avait suivi mes grands-parents en exil. Alors, ajoute-t-elle, il n'y aura même pas une vraie sage-femme et j'en suis désespérée. J'écris à l'insu de Sa Majesté, mais je ne peux pas supporter qu'on laisse ici pour longtemps, dans une maison tout à fait insuffisante, ces deux innocentes créatures. On doit protester. Leurs Majestés ne bougeront pas. Elle se laisserait plutôt enfermer sans dire un mot dans un trou ou dans une cave, au pain et à l'eau, si on exigeait ainsi. Dans notre chapelle, les champignons poussent sur les murs et on ne pourrait pas tenir dans les chambres si on y entretenait sans cesse du feu dans les cheminées. Nous nous y mettons naturellement tous ensemble pour aider le plus possible, mais quelquefois, dit-elle, on a envie de désespérer. Et elle finit sa lettre en disant « Seulement, quand on voit avec quelle patience leur majesté endure tout cela, nous nous remettons au travail. » Tôt, le 9 mars 1922, durant une matinée fraîche, l'empereur descendit à pied les 6 kilomètres qui le séparaient de Funchal pour acheter un petit cadeau symbolique pour Charles-Louis, mon père, dont le quatrième anniversaire était le lendemain. Le temps était chaud et ensoleillé à Funchal, mais quand il remonta le soir, dans un brouillard dense et humide, le vent froid transperça ses habits mouillés et il commença rapidement à tousser. Mais il n'appela pas de docteur, puisqu'il n'avait pas les moyens d'en faire venir un. Mais les jours suivants, sa condition s'empira. Il commença à avoir une forte fièvre et toussait continuellement. Zita, effrayé, appela quand même un docteur de Funchal qui l'examina avec un confrère. Et ils confirmèrent les craintes de l'impératrice. Charles était gravement malade avec une pneumonie. Et comme il était déjà très affaibli, il n'était pas capable de lutter contre cette maladie. De plus, il n'avait pas les moyens de se faire soigner dans un hôpital et en 1922, il n'avait pas accès aux antibiotiques. Tout ce que les deux docteurs ont pu faire, c'était de lui donner des injections de camphre et de caféine pour soulager son cœur. Appliquer des cataplasmes de moutarde, lui donner de l'oxygène pour respirer et finalement, comme on le faisait à l'époque, le saigner. Charles ne se plaint jamais, malgré ses souffrances et ses peines. Zita reste à ses côtés durant toute sa maladie, le réconforta, le soigna et pria pour lui et avec lui. Charles passa la plupart de son temps en prière pour sa vie, mais aussi pour ses sujets, qu'il aimait comme un père aime ses enfants. Il pria aussi pour ceux qu'il avait trahis et envoyés en exil. Le soir avant de mourir, Charles murmura « Je dois souffrir ainsi afin que mes peuples se réunissent un jour à nouveau. » Ses dernières heures furent assombries par le fait de mourir si loin de sa patrie. Le dernier matin de sa vie, il murmura à Zita « Je désire tant rentrer avec toi. Pourquoi est-ce qu'il ne nous laisse pas rentrer à la maison ?» Les minutes passent. Charles demande au prêtre de recevoir la Sainte Communion et il reçut ce qu'on appelait à ce moment-là le sacrement de l'extrême onction. Il essaya d'embrasser le crucifix qu'il tenait dans ses mains, mais il était trop faible pour le faire. Il tourna la tête vers Zita et lui dit « Ich liebe dich unendlich, je t'aime infiniment ». Et puis il rajouta « Nous nous retrouverons dans le cœur de Jésus ». À peu près 10 minutes avant de mourir, regardant le Saint-Sacrement, il dit « Que ta sainte volonté soit faite, Jésus. Jésus vient, oui, oui mon Jésus. » Puis il murmura une dernière fois « Jésus » et mourut. Il était à peu près midi le samedi 1er avril 1922 et il n'avait que 34 ans. L'impératrice ce jour-là portait une robe rose. Ce fut la dernière fois qu'on la vit habillée de couleur. L'empereur Charles a été jugé par l'Église. 55 ans d'études ont mené à la conclusion qu'il avait pratiqué les vertus jusqu'à l'héroïcité. Ce qui a amené sa béatification par le pape Jean-Paul II le 3 octobre 2004. Durant la cérémonie, le pape dit « Le devoir essentiel du chrétien est le suivant. En toute chose, rechercher la volonté de Dieu, la reconnaître et ensuite agir. Cet objectif quotidien était celui de l'homme d'État et chrétien Charles de la Maison d'Autriche. Il était un ami de la paix. De sa perspective, la guerre était une chose épouvantable. Au milieu des tourments de la Première Guerre mondiale, arrivé au pouvoir, il essaya de développer les initiatives de paix prises par mon prédécesseur, Benoît XV. Le pape rajoute, « Depuis le début, l'empereur Charles a compris que son devoir de souverain était un service saint à ses peuples. Son but principal était de suivre sa vocation de chrétien à la sainteté, également dans sa mission politique. Par conséquent, il était très important pour lui que l'amour du prochain soit traduit dans les lois sociales. Et le grand pape finit par cette exhortation, qu'il soit pour nous tous un exemple, surtout pour ceux qui, aujourd'hui en Europe, ont une responsabilité politique. » Après les obsèques, le 5 avril, l'impératrice, toujours sans moyens, n'a plus rien à faire à Madère. Le 19 mai, un mois après, après la mort de Charles, Zita et ses enfants quittent l'île, direction l'Espagne. Le 31 mai 1922, il y mettra au monde son 8e enfant, la petite Élisabeth. Le roi Alphonse XIII lui avait offert l'asile. Avec le roi d'Angleterre, il avait dû combattre pour faire admettre ses décisions par la conférence des ambassadeurs. À Paris, le 2 avril, Jacques Bainville notait dans son journal « Un Habsbourg meurt de pauvreté et Guillaume II vit dans une retraite dorée. » L'impératrice, infante d'Espagne, habitera d'abord au Pardo, à 20 km au nord de Madrid. Ma grand-mère vient d'atteindre ses 30 ans. Veuve, elle n'aura jamais l'idée de se remarier. Elle aura vécu un seul amour qui aura rempli sa vie et, symbole de cette fidélité, elle portera le deuil pour le restant de ses jours, soit 67 années, elle sera des pieds à la tête vêtue de noir. Cet sentiment est inséparable de sa foi profonde. Zita se sent surnaturellement unie à son mari. Tous les jours, elle l'invoque dans ses prières, plus intensément, quand se présentent les difficultés. Et ici, je veux rejoindre ce que Mgr Brugues vous a dit tout à l'heure. Je crois que le mariage ne finit pas lors du veuvage. Il continue. Il y a une présence réelle qui est là et qui vit. Et nous avons cette chose merveilleuse dans l'Église catholique qui est la communion des saints. Et je crois que c'est ce que ma grand-mère a vécu profondément. Elle installe ensuite sa famille à Lequeitio, sur la côte basque, où la villa Uribarren était allouée pour 6 mois. Le loyer, Zita n'avait pas plus d'argent qu'à Madère. Mais d'Autriche, de Hongrie et de l'Empire, des sujets se cotisent. Avec humilité, ce secours est accepté. Cette villa devient alors une école privée pour les 8 enfants impériaux dont elle supervise le travail. Alors, on a retrouvé tout récemment une extraordinaire lettre qu'elle a écrite, ma grand-mère a écrite, à une mystique française qui s'appelle la sœur Marie-Hilaire Tonnelier. Et elle devait, d'après cette lettre, avoir une correspondance assez régulière avec cette sœur parce qu'elle emploie une forme de familiarité qu'elle n'employait généralement pas. Et je vais vous lire quelques extraits parce que c'est impressionnant. C'est quelques mois après la mort de son mari et son départ du Portugal. Elle écrit « Ma chère petite sœur, ici, nous n'avons pas encore de logement pour l'hiver. » Et au surplus, le propriétaire nous a enjoint de quitter cette maison jusqu'au 31 janvier 1923. Le bon Dieu, qui donne la branche aux oiseaux, trouvera bien un toit pour nous abriter. Le bon Dieu fait si bien toutes choses, et nous en avons eu tant de preuves, et plus que jamais, on s'abandonne entièrement à la Providence. Et c'est si agréable. On fait son possible, mais sans agitation aucune. Cela ne réussit pas ? Eh bien, c'est que le bon Dieu avait une autre solution en vue. On continue. Si cela réussit, alors c'était cela. Sinon, on continue encore.
Un incident technique nous a privé de la suite de l'enregistrement de l'archiduc. Je vous propose donc la lecture du texte qu'il a prononcé. L'impératrice Zita disait encore « Les pauvres gens qui ne connaissent pas l'amour de Dieu pour ses créatures » et qui se rendent la vie si amère par leurs soucis que je les plains. C'est extraordinaire de voir le degré héroïque de foi et de soumission à la volonté de Dieu, qui sont exprimés ici, par une personne qui n'a pas de maison pour loger sa famille et ses 8 enfants, qui est veuve depuis moins d'un an, qui n'a pas d'argent, qui a été trahie et qui est bannie. Il fallait cependant, après quelques années, songer aux études universitaires. L'université catholique de Louvain semblait idéale, et ainsi, l'impératrice déménagea une fois de plus avec toute sa famille vers la Belgique, dont la reine Élisabeth était sa cousine germaine. Ce séjour belge dura un peu plus de 10 ans. D'abord à Bruxelles pour quelques mois, chez le comte Hippolyte d'Ursel, puis au château de Ham, à Stenokerzel, où elle emménagea fin janvier 1930. Ces années correspondent avec la montée de Hitler en Allemagne et avec l'Anschluss de l'Autriche à l'Allemagne. Elle se tenait au courant de tout, politique, économie, etc., et avait un très bon jugement. Les contacts avec le courageux chancelier Engelbert Dollfuss, puis, après son assassinat par les nazis, avec son successeur Kurt von Schuschnigg, furent nombreux, car tous deux considéraient que seul le retour des Habsbourg pouvait unifier le pays et empêcher l'Anschluss à l'Allemagne. La famille restait très populaire en Autriche. Dès 1934, la propagande nazie s'était déchaînée contre Zita, et après l'Anschluss, un décret fut signé par Himmler au nom de son bien-aimé Führer. Il condamnait à mort par contumace l'impératrice et ses enfants. Le 9 mai 1940, à Stenokerzel, la famille était réunie. C'était l'anniversaire de l'impératrice qui fêtait ses 48 ans. Mais cette date se trouva être celle où, après 8 mois de drôle de guerre, l'état-major de la Wehrmacht lança ses panzers dans la course folle qui, à travers la Belgique et la France, les conduisit 5 semaines plus tard sur les plages de l'Atlantique. Dans la soirée, au château de Ham, le téléphone sonne sans discontinuer. Le roi des Belges et la grande-duchesse de Luxembourg avertissent « Les Allemands attaquent et vous êtes un des objectifs principaux ». Avant l'aube du 10 mai, un avion survole le secteur, poursuivi par les canons de la DCA, puis résonne un grondement sourd, des dizaines de Messerschmitt, pas de temps à perdre. Les occupants de la maison s'entassent dans 3 voitures avec quelques valises, en route vers Bruxelles, Dunkerque, puis le sud. Ensuite, via le Portugal, arrivés à New York et Boston. Il faut cependant que les plus jeunes finissent l'université. Laval, au Québec, est choisi. Mon père, en 1941, et l'archiduc Rodolphe y finiront leurs études, puis s'engage dans l'armée américaine. À Québec, la vie continue. Dans sa nouvelle demeure, Zita a transformé une pièce en chapelle, où un prêtre canadien vient tous les matins célébrer la messe. Le train de vie est spartiate. Le président Roosevelt avait un respect et une estime pour ma grand-mère et pour son fils aîné. Par de nombreux contacts directs avec le président, comme le prouve la correspondance impressionnante conservée, ils réussirent à obtenir, à eux seuls, des États-Unis, le tour de force, à ce que l'Autriche redevienne une nation indépendante séparée de l'Allemagne. Lors de ces années de guerre, Zita a franchi le cap de la 50aine. Tous ses enfants sont adultes. N'ayant plus à se soucier de leur éducation, elle peut accorder son temps aux autres, Autrichiens, Hongrois, Croates, Slovaques, Tchèques, etc. À Québec, elle entretient une correspondance considérable. Les réfugiés qui sollicitent un soutien sont certains de trouver auprès d'elle une interlocutrice vigilante. Avant même la fin des opérations militaires sur le vieux continent, l'impératrice a entrepris d'attirer l'attention sur le sort des populations civiles. D'expérience, elle connaît les difficultés des périodes d'après-guerre. Il faudra donc, raisonnait-elle, venir en aide à l'Autriche. À l'invitation d'organisations caritatives catholiques, elle entame une série de conférences au Canada, 50aine en tout. Elle y évoque l'Europe centrale, ses villes bombardées, les maisons éventrées, sans lumière, sans chauffage, sans électricité, le manque de vêtements, de nourriture, de soins. Et pour ces pays lointains, la dame en noir fait naître l'émotion, réveille la générosité. À Québec, les dons en nature affluent. Médicaments, habits, chaussures. Zita remercie chacun par une lettre personnelle. Avec sa mère, la duchesse de Parme, sa sœur, la princesse Isabelle, et avec sa dernière fille, Élisabeth, l'impératrice classe, nettoie, empaquette. Pour mettre en caisse, les scouts et guides catholiques se sont mis à disposition. Le produit de la première conférence est offert au diocèse de Salzbourg, en zone d'occupation américaine. Devant ce succès, en 1946 et en 1947, Zita organise une seconde tournée aux États-Unis. Elle prépare elle-même ses déplacements. Le plus souvent, elle dort dans des institutions religieuses et voyage en train avec un billet de seconde classe. À New York, Denvers, Saint-Joseph, Saint-Louis, Boston, Philadelphie, Pittsburgh, Kansas City et jusqu'en Floride, l'impératrice intercède pour l'Autriche. Grâce à l'association CARE, Cooperative for American Remittance to Europe, elle assure l'envoi de milliers de colis à Vienne, à Graz, au Tyrol. Pour les églises détruites, l'impératrice collecte aussi objets et ornements liturgiques. En 1948, la situation de l'Autriche s'étant améliorée, cette action prend fin. À Québec, les religieuses annoncent à Zita leur intention de récupérer la Villa Saint-Joseph. Une nouvelle fois, il faut déménager. Respectivement entrepreneurs, financiers et assistantes sociales, Charles-Louis, Rodolphe et Charlotte travaillent tous trois à New York. Zita a donc intérêt à se rapprocher de cette ville. À Noël 1948, l'impératrice emménage à Tuxedo, à 60 km de New York. Son dernier acte politique fut, en 1949, d'obtenir du Sénat américain, via une quarantaine d'épouses de sénateurs qu'elle invita, d'inclure l'Autriche dans le plan Marshall. Grâce à elle, l'Autriche put bénéficier des subsides d'outre-Atlantique. De 1949 à 1952, l'impératrice fit plusieurs voyages en Europe, car ses enfants commencèrent à se marier. D'abord, en 1949, l'archiduchesse Élisabeth, puis Charles-Louis, puis l'archiduc Otto à Nancy et ainsi de suite, à l'exception de l'archiduchesse Adélaïde qui resta célibataire. Zita a eu 33 petits-enfants. Le centre de gravité de sa famille s'étant redéplacé vers l'Europe et, sa mère, la duchesse de Parme, étant devenue très âgée, Zita revint elle-même en Europe et s'installa en 1953 au Luxembourg, au château de Berg, pour y soigner sa mère. En 1959, la duchesse Maria Antonia décède à 97 ans. L'impératrice habita alternativement chez l'un ou l'autre de ses enfants, puis s'installa ensuite avec la comtesse de Kersenbrock à un endroit central en Europe, à Davos en Suisse, puis toujours dans les Grisons au Sankt Johannes Stift à Zizer. Elle y vécut 27 ans jusqu'à sa mort en 1989. Elle y habita dans un petit appartement de 3 pièces et une véranda au 2e étage du couvent. Le logis reste modeste, car elle ne dispose que de peu d'objets personnels. Elle aura encore la douleur de perdre une de ses filles, un de ses petits-enfants, ainsi que son fidèle soutien en 1973, la comtesse Kersenbrock. Celle-ci sera remplacée, et ce jusqu'à la mort de l'impératrice, par la baronne Plattpatsch. En 1977, le jour de son 85e anniversaire, naîtra son premier arrière-petit-enfant, Carl Christian. Chaque année, autour de cette date, le 9 mai, généralement à la Pentecôte, toute la famille se réunit autour d'elle, le plus souvent à Zizer, dont en 1972 avec le cardinal Mizenti, à Bruxelles ou Pocking. Elle eut des tristesses qu'elle a cachées, comme l'acte de renonciation de l'archiduc Otto pour lui et ses enfants, mais aussi de grandes joies, comme l'autorisation de retourner sans condition à 90 ans en Autriche. Le chancelier Bruno Kreisky trouva une solution juridique pour ce retour et regagna les élections dans la foulée. Elle put enfin se recueillir sur la tombe de sa fille Adélaïde à Tulf, au Tyrol, retourner à Mariazell et, le 13 novembre 1982, assister à une messe célébrée en la cathédrale Saint-Étienne. Télévision, radio et plus de 20 000 personnes se pressèrent dans la cathédrale et sur l'esplanade. Elle fut ovationnée. Elle y retourna en plusieurs fois, mais bientôt ses forces diminuèrent. Son esprit reste vif, elle devient presque aveugle et se déplace en chaise roulante. Durant sa vie, elle aura été reçue en audience par tous les papes depuis Léon XIII jusqu'à Jean-Paul II, avec l'exception de Jean-Paul Ier, qui prit cependant le temps, pendant son court règne, de lui envoyer un message concernant le procès de béatification de son mari. L'ouverture de ce procès au Vatican, en 1949, lui causa aussi une énorme joie, et l'avancement du procès sera, pour elle, une intention de prière quotidienne. Le centre spirituel de sa vie était à Solesmes. Elle avait trois sœurs religieuses à l'abbaye bénédictine de Sainte-Cécile et était elle-même oblate de Saint-Benoît. Les archives de Solesmes montrent qu'elle y fit sa première visite, comme enfant, en 1899, et son dernier contact fut un appel téléphonique avec la révérende mère supérieure, début 1989, soit une période de 90 ans. Quand elle était en Europe, elle passait volontiers 1 à 3 mois, vivant avec et comme les religieuses à Solesmes. Le 10 mars 1989, elle commence son agonie, reçoit les derniers sacrements et décède le 14 mars 1989, entourée de certains de ses enfants et belles-filles. Elle fut enterrée à Vienne le 1er avril, date anniversaire de la mort de l'empereur Charles, comme impératrice et reine apostolique. Plus de 25 000 personnes assistèrent aux cérémonies, sans compter les radios et télévisions du monde entier. Selon son souhait, après avoir été embaumée, son cœur rejoignit celui de son mari au caveau familial de Mury en Suisse, et elle fut inhumée à la crypte des Capucins. Une foi inébranlable, une espérance sans faille, un caractère bien trempé, un sens extraordinaire du devoir, une absence totale d'amertume, un amour de la vérité, lui ont donné une force pour faire face, durant toute sa vie, à des épreuves continuelles et pour porter un fardeau qui aurait terrassé n'importe qui d'autre. Le 10 décembre 2009 fut ouvert officiellement au Mans, le diocèse de Solesmes, le procès de béatification de celle que l'historien Jean Sévilla appela si justement Zita, impératrice courage.
Nous avons un peu de temps pour répondre à l'une ou l'autre question.
Mes grands-parents ont profondément compris que ce sacrement leur donnait la force de rendre ce saint service. Parce que on le comprend mal aujourd'hui, mais régner, c'est servir. Et je connais deux exemples très clairs, le roi Baudouin en Belgique et mon grand-père sur les derniers 100 ans qui ont vraiment compris cela. D'autres souverains un peu moins, mais eux certainement. Et cette onction leur a donné énormément de force. Mais comme on le voit par exemple chez les rois de France qui ont aussi été oints, certains l'ont employé pour le bien et d'autres pour le moins bien. Et donc cette force reste même pour ce qui est moins bien. Et donc c'est cette liberté, cette volonté de suivre la volonté de Dieu en toute chose qui est aidée par cette onction. Merci.
J'ai juste une question. Est-ce qu'aujourd'hui encore vous avez une quelconque influence sur la politique, que ce soit en Autriche par exemple?
Non, pas vraiment comme ça, comme on l'entend au niveau politique si vous voulez. Moi, j'espère que je puis dire qu'aujourd'hui, notre mission, elle est spirituelle d'abord, par l'exemple, par le devoir, et Mgr Brugues en a parlé, de mémoire sur ce qui a été fait, n'est-ce pas, et d'essayer de, et la transmission. C'est sûr que s'il y a une crise un jour, on va peut-être se retourner vers ceux qui se sont bien comportés pendant des centaines d'années ou qui ont continué à essayer de bien se comporter par la suite et à faire ce que le bon Dieu voulait d'eux. C'est une chose qui peut arriver et qui peut ne pas arriver. C'est généralement dans les grandes crises qu'on va chercher des personnes qui n'ont pas peur et qui vont faire ce qu'ils doivent faire et ce qu'ils considèrent eux comme la volonté de Dieu aussi. Si c'est une question purement politique, je ne pense pas qu'on aura beaucoup d'influence directe, mais indirecte certainement. Oui.
Après la reconnaissance de l'héroïcité des vertus, pour qu'une personne soit béatifiée, il me semble qu'il y a besoin d'un miracle. Est-ce que ça a été le cas pour l'empereur Charles ?
Oui, tout à fait. Et je vous remercie pour cette question, parce que c'est une question que j'aime beaucoup. Il y a eu plusieurs miracles, mais évidemment l'Église a besoin de quelque chose de solide, qui soit indiscutable. Et c'est très curieux comme la sainteté est universelle d'une certaine façon. Il y avait un couvent, il y a un couvent au Brésil, et il y avait une sœur qui était grabataire dans ce couvent. Et cette sœur souffrait d'une forme de gangrène, et ça progressait, ça venait des pieds, ça montait doucement, et elle souffrait épouvantablement. Et tous les jours, une autre religieuse du couvent était assise à ses côtés, et pendant 24 heures, prenait soin de cette religieuse. Et alors, à un moment donné, est venue d'Autriche, une petite religieuse autrichienne, toute nouvelle, toute jeune, et elle dit à la pauvre sœur malade, elle lui dit, mais pourquoi est-ce qu'on prierait pas l'empereur Charles ? Il est très bien pour les malades. Et la sœur malade s'est redressée dans son lit, elle était polonaise, elle a dit, prier un Habsbourg, ça, jamais. Et le soir même, elle avait de telles douleurs qu'elle a dit à la petite sœur, elle a dit, écoutez, je suis prête à tout, même à prier Charles. Le lendemain matin, elle était à genoux dans la chapelle avec toutes les autres religieuses et il n'y a pas eu de rechute. Ma grand-mère un jour a demandé à ma plus jeune sœur, est-ce que tu sais comment s'appelait la religieuse brésilienne que ton grand-père a guéri, ou par laquelle Dieu a guéri, par l'intercession duquel Dieu a guéri? Et ma sœur dit non. Eh bien, ma grand-mère lui a dit, elle s'appelait sœur Zita. Tu vois qu'il ne m'a pas complètement oublié. »